LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
L'ouverture du score par l'Espagne. Et c'est la capitaine qui vient marquer cette frappe croisée magnifique du gauche qui trompe la gardienne Herbst. 1-0 pour les Espagnols après une demi-heure de jeu face à l'Angleterre.
20 août 2023. L'équipe féminine de foot espagnol gagne la Coupe du Monde. C'est une première, une victoire historique. Le pays entier est fier de ses joueuses. Elles sont des héroïnes. On crie, on rit, on pleure, on se prend dans les bras. Un moment d'euphorie. Sur le terrain, les médailles sont distribuées. Une brochette officielle félicite les joueuses. Et puis arrive ce moment qui, il y a quelques années, serait passé inaperçu. Jenny Hermoso, l'une des joueuses, s'approche de Luis Rubiales, le président de la Fédération de football. Ce dernier la prend dans ses bras. En l'espace de 2 secondes, il saute sur elle en écartant ses jambes, comme un petit geste d'accouplement qui dure tellement peu de temps qu'on se demande si on l'a bien vu ou pas. Puis il attrape sa tête et l'embrasse, sur la bouche. Dans les vestiaires, alors que l'équipe espagnole est toujours en extase, Jenny Hermoso visionne la vidéo du baiser forcé et lâche « Ça ne m'a pas plu, hein ?» Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Regarde-moi. D'un bout à l'autre du pays, et malgré la torpeur estivale, des milliers de femmes sortent dans les rues. Elles crient
« C'est acabo.
C'est acabo.
C'est acabo.
Ça suffit.
C'est acabo. »
Féminisme.
Féminismos.
L'avant-garde espagnole.
La vanguardia española.
Une série documentaire d'Ilana Navarro, réalisée par Cécile Lafont. Épisode 1, Yo te creo, je te crois.
The president of the Spanish Football Federation has been slammed for this. Luis Rubiales kissed World Cup winner Jenny.
Luis Rubiales kissed Jenny Hermoso after Spain beat England on Sunday.
Un baiser forcé sur la bouche.
Soudain, le monde entier a les yeux braqués sur l'Espagne et constate que le pays d'origine du mot machisme est décidé à tourner la page.
Y vamos a hablar de uno de los puntos que está más sensible por estos tiempos. Tiene que ver con Rubiales.
Luis Rubiales se retrouve au banc des accusés.
No, amigo, celebrando algo.
Et comme on peut s'y attendre, il ne veut rien entendre. Pour lui, ceux qui osent le critiquer sont des idiots, des stupides et de tontos del culo. Imbécile de ment, je vous laisse deviner. L'affaire du baiser forcé fait réagir jusqu'aux plus hautes autorités de l'État. La vice-présidente du gouvernement, Yolanda Diaz, déclare « Nous continuons à demander la démission de M. Rubiales, qui dans ce cas a ni plus ni moins humilié et qui a, sans qu'il y ait de place laissée au doute, agressé une femme. J'insiste, cet individu doit démissionner. »
No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Face au calme et à la détermination de la numéro 2 du gouvernement, Rubiales perd le contrôle de ses nerfs, en scandant qu'il ne démissionnera pas.
La igualdad no es diferenciar.
Dans un discours où s'en présentent ses propres filles, il se met à donner des leçons de féminisme.
Hijas, aprendedlo, es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad. No el falso feminismo que hay por ahí.
Mes filles, dit-il, c'est une leçon de vie. Vous, vous êtes des véritables féministes. Il qualifie ce qu'il accuse de propager un faux féminisme, qui, selon lui, est un fléau de ce pays.
El presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, anunció el domingo su dimisión.
Au cœur de la tourmente depuis 3 semaines, le patron du football espagnol jette finalement l'éponge.
Le 11 septembre, Luis Rubiales finit par démissionner. Mais comment un baiser forcé est-il devenu une affaire d'État? Pour le comprendre, il faut revenir 7 ans en arrière, participer à une course de taureaux à Pampelune, capitale de la Navarre. Ici, tous les mois de juillet, des milliers de gens de toute l'Espagne et du monde entier se réunissent pour la fête de Sant Fermín. Le matin, les plus braves des festivaliers font la course devant les taureaux, les amenant de leur cage jusqu'à l'arène où ils seront tués. S'ensuit une semaine de danse, de fêtes et d'ivresse. Le 7 juillet 2016, une jeune madrilène de 18 ans se retrouve soudain seule dans la nuit. En allant danser, elle a perdu ses amis. Assise sur un banc, elle est abordée par un groupe d'hommes qui se nomment eux-mêmes la manada, la meute en français. Après une conversation plutôt amicale, la jeune femme, saoule, dit être fatiguée et veut retourner à la voiture de son amie, garée à 10 minutes de là. Les hommes proposent de l'accompagner, mais en fait, ils l'entraînent vers l'entrée d'un immeuble. Là, la jeune femme est déshabillée. Pendant 20 minutes, selon les images de la caméra de surveillance, les violeurs la pénètrent à répétition, par voie orale, vaginale et anale. Elle ferme les yeux et attend la fin, ne se rendant pas compte qu'elle était filmée par ses agresseurs.
Quoi qu'il en soit, nous voulons t'envoyer un message.
Tu n'es pas seule, nous sommes toutes avec toi, parce que nous sommes ta meute, parce que nous sommes des milliers, des millions. Et oui, nous te croyons.
Nous espérons que la justice remplira son rôle et que nous n'aurons pas à nous battre pour toi et pour nous toutes. Et s'il n'y a pas de justice, nous ne resterons pas les bras croisés. S'il n'y a pas de justice, nous nous battrons avec toi.
Nous prendrons les rues, les places et jusqu'au ministère de la Justice. Ce qu'il faudra. Nous manifesterons de jour comme de nuit. Nous nous mettrons en grève et ferons appel à tous les tribunaux jusqu'à ce qu'ils nous écoutent.
Parce qu'aujourd'hui, c'est. Mais demain, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être ta petite fille, ta nièce, ta meilleure amie. Parce que c'est nous toutes. Sœurs, restons alertes.
Ma sœur, nous sommes ta meute, crient les manifestantes. Le viol de la manada fait ressurgir toute une mémoire enfouie. Des siècles d'oppression des femmes sous toutes ses formes. De l'humiliation au viol, des coups au meurtre. La manada déclenche la plus grande mobilisation féministe de l'histoire du pays. De Madrid à Bilbao, de Séville à Barcelone, c'est une légion de femmes qui s'est levée.
Je me rappelle de phrases qui se disaient entre eux et qui sortaient chassées. Qu'il avait fait avant. On lui a volé aussi le téléphone, non ?
Isabel Cadenas, activiste.
Et je me rappelle de leurs images, très clairement, je les vois, habillées en blanc, avec leur mouchoir en rouge. La face, tout. La façon dont elle a été violée, après les faits qu'on a partagé les vidéos, qu'on l'a filmé, qu'on a partagé les vidéos, le groupe qu'ils avaient, le nom du groupe. Les procès, les juges machistes, une partie de la société qui comprenait, qui trouvait ça normal, qui questionnait la victime parce qu'elle n'avait pas pleuré ou parce qu'après, elle vivait une vie normale, non ? Une vie normale et qu'elle n'était pas à la maison en train de pleurer tout le temps. Ça, je me rappelle beaucoup, par exemple. Le fait qu'on devait expliquer qu'après un viol, toi, tu peux continuer à vivre de la même façon, mais que c'est à l'intérieur de toi qui tout se passe, non ? On a fait beaucoup de pédagogie, là, en ce moment, comme on a fait maintenant avec Rubiales. Et, alors, ouais, j'ai expliqué ça à beaucoup de gens, et surtout, j'ai vécu ça avec d'indignation. Ouais. Bon, j'étais déjà très active dans le mouvement féministe ici à Madrid. On parle beaucoup ici en Espagne, je suis passée en France, des lunettes violettes, on dit ça, des lunettes violettes. Ah, on dit pas ça. Ah, bah c'est super beau. Bah, on parle beaucoup de ça, de las gafas moradas. Donc, quand tu mets les lunettes violettes, des choses que tu n'avais pas vues avant deviennent évidentes. Donc, moi, j'avais déjà les lunettes violettes. Et peut-être que si je ne les avais pas eues, ça ne m'aurait pas impressionnée ou écœurée autant. Mais je les avais déjà.
Ils se sont vantés du viol qu'ils ont filmé et ils l'ont diffusé sur les réseaux.
L'un d'eux était un policier, donc. Mm-hmm.
Un policier militaire. Mm-hmm. Ouais, moi, ça m'est... Le fait que, voilà, que 5 hommes ont un groupe pour chasser et que leur façon de faire la fête soit violée. Un groupe, une personne, ce qu'il dit, c'est je préfère qu'on se fasse une femme grosse entre les cinq que baiser avec une très belle femme, moi toute seule. Il dit ça. Et moi, ça me fait poser des questions sur la masculinité, en fait. Pourquoi ça arrive ? Je le comprends pas, vraiment. Je voulais vraiment comprendre.
Antes de la manada, sabíamos que podía pasar.
Avant la Malada, nous savions que ça pouvait arriver. Chacune de nous. Parce que c'est toujours arrivé. C'est le conte du petit chaperon rouge. Ne va pas dans le bois parce que dans le bois, il y a un loup. Le bois, c'est la société. Et le loup, c'est l'homme. Et depuis toute petite, on t'apprend qu'il y a un loup. N'y va pas, il va te faire du mal.
Cristina Fayaras, journaliste.
Dentro de la idea de ir de fiesta o de turismo, entraba a violar.
En fait, on s'est rendu compte que le viol faisait partie de l'idée de la fête ou du tourisme. C'était fou. Par exemple, on va passer une semaine à Mallorca et on anticipe déjà qu'on va violer une fille. Quand est arrivée l'affaire de la Manada, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas une exception, qu'il existait beaucoup de groupes de chat. Par exemple, entre les hommes d'un même bureau, ils se disent « Regarde les nichons qu'elle a, la secrétaire » ou bien « Je baiserai bien la directrice ». Jusqu'à la Manada, le violeur, c'était un homme qui se cachait, qui te violait et qui se taisait. C'était un homme de l'ombre, qui le faisait en cachette, qui ne l'avouait pas. Après la Manada, on s'est rendu compte que le viol faisait partie de la fête. Les violeurs de la Manada ont juste fait un pas de plus. Et le jour de la fête, ils ont commencé à poster des vidéos de leurs prouesses sexuelles. Et d'un coup, les données de la police ont commencé à sortir. Et on a compris que c'était fréquent. C'est la première fois qu'on l'a vu. Et surtout, c'est la première fois qu'on a vu qu'il y avait des groupes organisés sur des chats, sur des groupes WhatsApp ou autres, où se diffusaient ces... où ils se vantaient de l'avoir fait.
Dans toutes les villes d'Espagne, des foules crient « Yo te creo », « Je te crois », pour montrer leur soutien à la victime. Ce n'est pas un abus sexuel, c'est un viol. En novembre 2017, le procès de ce qui marquera l'histoire comme le viol de la Manada commence à Pampelune. L'audience apprend que la défense a engagé un détective privé pour suivre la victime dans sa vie quotidienne, utilisant ses partages sur les réseaux sociaux comme preuve de ses mœurs légères.
Nous devons condamner, et nous condamnons, José Ángel Prenda Martínez comme responsable conscient et auteur d'un délit continué d'abus sexuel.
Ce n'est pas une agression sexuelle, c'est un viol. Non, c'est non. Ou encore moi, oui, je te crois. Voici ce qu'ont crié en chœur les manifestants réunis hier soir sur la place San Jaume. Dans l'après-midi, les jeunes hommes de la Manada avaient été condamnés à 9 ans de prison pour agression sexuelle, alors que le parquet demandait plus de 22 ans de prison pour chacun d'entre eux. Les juges n'ont finalement pas retenu l'accusation de viol, car il n'y a eu, selon eux, ni violence, ni intimidation. Après l'annonce du jugement, le parquet et l'avocat de la victime ont annoncé qu'ils allaient faire appel.
Siendo jueza, salió la sentencia de la manada, y creo que fui la primera persona entrevistada en una de las radios más escuchadas.
En tant que juge, lors de la sentence de la manada, je crois que j'ai été la première personne interviewée dans l'une des radios les plus écoutées d'Espagne, la chaîne CEL. Et j'ai dit à la présentatrice, ce que disent les preuves, c'est que ce n'est pas un abus sexuel, c'est un viol. Très longtemps après, les femmes sont sorties dans la rue pour dire, ce n'est pas un abus, c'est un viol. Victoria Rossell, magistrate, déléguée au ministère de l'Égalité, chargée des violences sexistes. Je pense que ce qui est fondamental dans cette affaire de la Manada de Pamplona, c'est visualiser l'énorme fossé qui existait entre le système judiciaire et ce qu'il appelait viol, et le féminisme et la jeunesse qui disaient dans la rue, ceci est un viol. Lors du jugement, ils ont demandé de nombreuses fois à la victime de la Manada si elle avait dit non, si elle s'était battue, si elle avait pleuré, si elle avait crié, si elle avait résisté. Nous avons un concept très masculin de la violence. La violence est frappée. Et les hommes ne comprennent pas que la violence sexuelle, ça peut être juste de toucher. C'est aussi une violence. Alors nous avons appelé agression sexuelle tout ce qui se réalise sans consentement et qui est condamné, que tu aies été frappé ou non. Si on te frappe, c'est pire, mais il n'est pas nécessaire qu'on te fasse mal pour qu'il y ait un viol. Et ça, c'est ce qu'a dit la société confrontée à la manada. Il y a des fois où tu ne peux pas dire non.
Cuando salió la sentencia primera de la manada,
quand est parue la première sentence de la manada, qui a tout révolutionné. Moi, j'étais en direct sur un programme de télévision de Mediaset. J'étais en direct. Ils ont prononcé la sentence. On était des centaines de milliers de femmes en Espagne à attendre cette sentence. Et tout à coup, ces juges... Ils avaient vu la vidéo. Moi aussi. Dans la vidéo, on voit un viol brutal. Ils poussent la fille pendant que l'un d'entre eux la pénètre. Un autre lui met son pénis dans la bouche. Très longtemps. Insupportable. Ils la filment. Et ces trois juges disent qu'il n'y a pas eu de violence. Que ce n'était qu'un abus. Qu'il n'y a pas eu d'agression. C'est à ce moment-là que j'ai senti, pour la première fois, une contradiction entre la journaliste en moi et la femme activiste. Les mots ne pouvaient plus sortir de ma bouche. C'était terrible. Je ne pouvais pas garder mon sang-froid pour analyser ça. Et quand ils ont commencé à parler, les uns après les autres, j'ai dit, ça suffit, ici, je suis la seule femme. C'est moi qui parle. Vous, les hommes, vous vous taisez. Ça a été un moment difficile à la télévision. Mais j'ai pensé, non, ça m'est égal d'abandonner ma posture de professionnelle. Je dois profiter de ce micro pour dire ce que je ressens, là, ici et maintenant. Et ce que ressentent des centaines de millions de femmes.
Non, c'est non. Et nous ne pouvons que partager cette opinion. Bien sûr que non, c'est non. Mais pour que ce soit non, il faut dire non. Un minimum, implicitement. Essayer d'exprimer, au minimum, une réaction négative.
C'est ça, c'est l'avocat des violeurs.
Quand
il faisait des apparitions à la télé pour dire ses ordures, j'étais celle qui lui répondait.
La majoria de las agresiones que consideramos ahora,
la plupart des agressions que nous considérons aujourd'hui comme des agressions machistes n'étaient considérées que comme des abus.
Porque estabas borracha, por ejemplo.
Parce que tu étais bourré, par exemple.
Inconsciente, era un abuso. Porque consideraban que no
si tu étais inconsciente, c'était un abus parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas eu de violence.
La théorie de este señor es que si tú estás borracha, inconsciente,
la théorie de ce monsieur, c'est que si tu es saoule, inconsciente ou dans un état de choc, on peut te violer. Toute cette théorie a amené à croire qu'une femme dans un état d'inconscience ou dans un état de choc, on pouvait la violer.
Quand le procès a commencé à être vraiment, vraiment très public et très machiste, on a convoqué, c'était pas une manifestation, c'était une concentration devant le ministère de la Justice. Et on pensait qu'il y en allait être vraiment 20 personnes. Et quand on a commencé à voir la quantité de femmes et des hommes qui sont arrivés, en fait, on n'entrait pas devant la rue, devant le ministère de la Justice, et pas une rue petite, elle est assez grande, mais il n'y avait pas l'espace pour tout le monde.
Nous sommes indignés par la sentence de la manada, parce que c'était un viol et pas un abus. Et nous voulons que ça se sache, et nous voulons qu'ils nous écoutent.
Alors, les gens ont commencé à marcher, ils ont commencé à marcher dans la Gran Vía, donc la rue principale de Madrid. On a coupé ça et après on est arrivé à Sol, qui est la plus grande place centrale de Madrid, et c'est le centre de l'Espagne, c'est là où il y a le kilomètre zéro, et on a commencé à marcher vers Sol et on s'est toutes assises à Sol, et c'était les plus jeunes d'entre nous qui ont décidé de faire ça, de convoquer une concentration, et on fait ça et on est toutes allées. C'est vraiment très, très spontané. Et les gens avaient vraiment besoin d'y aller, de se manifester. Ouais.
Et juste après, vous avez lancé un mouvement. Cuéntalo.
Sí. Esa misma tarde, yo pensé,
même après-midi, je me suis demandé, pourquoi les juges font-ils ça?
Pourquoi
disent-ils qu'il n'y a pas eu de violence? Parce qu'ils le peuvent. Parce que nous ne l'avons pas raconté. Parce qu'il n'existe pas de récit auquel s'accrocher. Parce qu'ils traitent ça comme si c'était une exception.
Les médias de communication, de repente, se ven obligados à parler de esto. Vale.
Les médias se voient tout à coup obligés de parler de ça. Ok, et ce ne sont pas les médias qui ont pris l'initiative. C'est nous, les femmes, en racontant une par une nos récits de douleur, qui avons imposé cette question dans les médias.
Avril 2018, Peonia 65. J'avais 8 ans, je venais de faire ma communion. Le curé de ma paroisse attendait d'avoir confessé tous les adultes. Alors il me disait que moi, il allait me confesser dans la sacristie parce que j'étais spéciale.
Au bout de 3 ans de couple, notre fils est arrivé.
Il me mettait entre ses jambes et ses mains montaient le long des miennes jusqu'à entrer sous ma culotte.
Il m'a frappée, humiliée. Il m'obligeait à avoir des relations sexuelles.
1er mai 2018. J'ai 20 ans. Mon père biologique a abusé sexuellement de moi aussi loin que je m'en souvienne.
Je n'avais pas le droit de travailler.
28 avril 2018.
Il a presque défiguré mon fils d'un an.
Depuis que j'ai commencé à sortir en boîte, je ne me souviens pas d'une nuit lors de laquelle on ne m'ait pas touché le cul en passant.
Le macho ne change pas. Je le raconte parce que je suis encore vivante.
Quand j'ai eu le courage d'en parler, ils l'ont laissé en liberté 3 ans de plus et ont essayé de rejeter la faute sur moi. Je le raconte parce que c'est mon histoire.
De repente, España tenía un movimiento feminista.
Soudain, l'Espagne avait un mouvement féministe plus homogène que jamais, plus visible que jamais, plus combatif que jamais, plus suivi que jamais.
Entre más gente.
Isabel Valdés, journaliste.
Siempre pensamos,
nous pensions toujours, ou en tout cas, il y a un stéréotype selon lequel la violence s'exerce toujours dans les classes plus populaires. C'est faux.
La violencia se da en todos los estratos sociales, en todas partes del mundo.
La violence s'exerce dans toutes les strates sociales, partout dans le monde, à n'importe quelle heure, de la part de n'importe qui. Elle se produit dans les strates les plus basses et elle se produit dans les strates les plus hautes. Elle se produit pour des directrices et pour des employés de la base. Elle se produit partout. Il n'y a rien de plus répandu contre les femmes dans ce monde que la violence sexuelle, quelle que soit sa forme. Quelle qu'elle soit, 8,9% des femmes de ce monde, à un moment dans leur vie, ont subi des violences sexuelles.
A lo mejor no ha sido una violación, pero ha sido un tocamiento, ha sido un momento de fuerza.
Si ça n'était pas un viol, c'était un attouchement, une intimidation. Il y a eu quelque chose, et ça interpelle toutes les femmes. Je crois que la violence sexuelle, c'est de fait ce qui a marqué le féminisme ces dernières années, et c'est ça qui a mobilisé les femmes en Espagne. Pendant toutes les décennies antérieures, l'Espagne avait eu un mouvement féministe puissant, mais dans des groupes réduits. Et soudain, ça s'est répandu à toute la société. Il faut prendre en compte qu'en Espagne, l'affaire de la Manada, c'est avant le MeToo. Le MeToo, c'était en 2018. La Manada, en 2016. Quand est arrivé 2018, ça faisait 2 ans que l'Espagne avait allumé les feux, si l'on peut dire, à l'intérieur du mouvement féministe. Ça a été une sorte de propagation très rapide qui n'aurait jamais pu arriver sans les réseaux sociaux. Ça ne serait pas arrivé. Les réseaux sociaux ont permis le contact direct et immédiat de centaines de milliers de femmes en même temps, de partout.
La mobilisation impulsée par le procès de la Manada galvanise la jeunesse espagnole. Des milliers de jeunes filles entraînent dans la rue leur mère et même leur grand-mère. D'un bout à l'autre du pays, entre celles qui militent depuis des années et celles qui viennent de sortir dans la rue, c'est des rencontres inouïes. Les militantes se regardent, surprises par l'ampleur du mouvement. Comme si la question de l'oppression des femmes devenait soudain l'enjeu principal de la société espagnole. Mais alors, comment en était-on arrivé là? Et que faire maintenant avec cette nouvelle force? Isabelle, Justa, Julia, Cristina, Victoria et beaucoup d'autres se posent la question.
Nous, ça faisait vraiment très longtemps qu'on voulait faire une grève.
Donc, quand la grande manifestation contre la manada s'est passée en Madrid, on savait déjà qu'on allait organiser ça, et ça faisait déjà quelques mois qu'on organisait ça. Alors, pour nous, ça a été comme le prologue, quelque chose comme ça. On s'est demandé si on avait des forces pour convoquer une grève. Ça allait être la première grève féministe en Espagne. Et on s'est dit oui. Donc, ça a été le plus beau processus politique que j'ai vécu dans ma vie. On était en train de se demander ce qu'était une grève et ce qu'était une grève féministe. Donc, ça a été un processus de un an. Donc, une année complète, on a été en train de faire des assemblées, en train d'imaginer comment ça allait être cette grève, comment on allait convoquer, si on avait besoin d'un grand syndicat ou pas, si on allait aussi convoquer aux hommes ou pas, si ça allait être une grève seulement des femmes ou pas.
Un mois et demi ou deux mois avant, le 8 mars de 2018, nous étions sûrs. Quand je dis nous, je parle de la commission 8 mars du mouvement féministe qui se sont créés pour travailler autour de l'idée de la grève. Nous étions sûrs qu'il va y avoir une grève importante et qu'il va y avoir des manifestations jamais vues.
Justa Montero, féministe historique.
Mais il y avait beaucoup de gens, d'agents politiques et d'agents sociaux, qui étaient dans d'autres dimensions de la réalité pour nous, qui ils croyaient pas que ça va se passer.
Normalement, en Espagne, on a eu des grèves générales, mais les grèves générales n'étaient jamais des grèves générales parce qu'il y avait des gens qui sortaient pas dans la grève parce qu'elles devaient faire à manger, de prendre soin des enfants, de faire des choses pendant que les hommes faisaient la grève, la vraie grève. Et alors, on se demandait comment serait une vraie grève. Une grève où les femmes vraiment sortent dans la rue. Et une grève dont les femmes décident d'arrêter vraiment leurs travaux payés et pas payés, non?
C'est un procès aussi de repenser les mouvements féministes. Et ça s'appelait comme ça, on va repenser les mouvements féministes. C'était important pour nous que tout le monde nous comprenait. C'était super important de sortir de notre cercle. Et il faut que notre grand-mère s'appelle féministe parce qu'elle est son.
Julia Riesco, activiste au mouvement 8M.
Et donc, on a mis la question des soignantes.
Ça, des cuidados.
Des cuidados, oui.
Des soins.
Des soins au centre. Donc avec ça, tu vois, je pense que c'est une question avec tous les fonds qui peuvent s'identifier avec ça. Tous les fonds partout le monde.
Donc, la grève allait être une grève en trois niveaux différents. Donc, une grève économique. Donc, on arrête de travailler nos travaux payés, disons. Ça allait être aussi une grève des étudiants et des profs. Donc, une grève éducative. Mais ça allait aussi être une grève des soins. Et ça a été le plus important. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, une grève des soins? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas prendre soin un jour? Et si moi, je ne prends pas soin, qui prend soin? Parce que les soins ne s'arrêtent pas. Si quelqu'un a besoin d'être pris, s'il y a un enfant, qui va prendre soin de cet enfant si moi je fais la grève? Et ça a été en fait la grève des soins qui a pour moi tout changé et qui a vraiment mené la discussion à l'entourage intime. Donc moi, dans ma famille, comment je fais? Moi, je suis une femme, j'ai trois enfants, j'ai un mari. Comment je fais pour faire la grève? Parce que si moi, je ne prends pas soin de mes enfants, alors c'est mon mari qui doit prendre soin. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne va pas au travail. Donc, ça posait beaucoup de questions qui devaient se poser dans l'espace intime et aussi public. Et pour moi, ça a été vraiment cet aspect de la grève féministe qui a été vraiment très révolutionnaire, je dirais. Je n'utilise pas beaucoup le mot révolutionnaire. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que vraiment, dans les groupes des mères et des pères à l'école, dans les groupes de WhatsApp de beaucoup de gens en Espagne, il y a vraiment une discussion sur qu'est-ce que c'est une grève féministe. Et ça, c'est pas nous, l'organisation, qui l'avons fait. C'est vraiment toute la société qui l'a fait.
Et alors, ces jours-là, c'était très important parce que, premièrement, on a la possibilité de voir quelle est la situation des femmes dans l'emploi. Quelles femmes peuvent faire la grève et quelles femmes peuvent pas l'affaire parce que ces conditions de travail sont telles qu'elles ne peuvent pas le faire parce qu'ils le font, elles sortent de travail immédiatement, non? Et, par exemple, les travailleurs de travail domestique, elles disaient « nous ne pouvons pas le faire parce que nous n'avons pas de droits qui nous soutiennent ». Non? Alors ça devient une forme de dire ça c'est la situation réelle des femmes dans l'emploi, mais aussi c'était la grève dans la maison, et ça devient des très intéressantes situations et débats parce que c'était les hommes qui devaient faire tout ce qu'ils font normalement les femmes ce jour-là, d'aller à les grand-mères, parce qu'ici beaucoup de situations, c'est les grand-mères qui vont chercher les enfants. Et aussi, les grand-mères ont dit « Ah non, non, aujourd'hui, pas du tout. Vous voirez comment est-ce que vous allez le faire. » Et ça met un débat social dans tous les endroits, dans tous les maisons, parce que l'idée, c'était que la grève, c'était pas pour un seul problème. C'est pas seulement pour la violence que c'était un problème très grave. C'est pas seulement pour l'emploi. C'est par les différentes situations qui ont les femmes toutes diverses et dépendant de sa situation de classe, de race, d'identité sexuelle. Alors, il appelle à toutes les femmes. Et c'est pour ça qu'il y a été un mouvement et comme un processus tellement populaire et tellement inclusif. Parce que toutes les femmes se sont senties appelées.
Los cuidados es un concepto que existe en el feminismo, pero que yo creo que el feminismo.
Le cuidado c'est un concept qui existe dans le féminisme, mais je crois que le féminisme espagnol en a fait un étendard. Et le féminisme latino-américain aussi, l'Argentine, le Mexique, le Pérou, le Chili, la Colombie, la Bolivie. Ce sont des mouvements féministes très intéressants.
De repente, una se da cuenta.
Tout à coup, on se rend compte que le capitalisme existe et que les hommes travaillent parce que nous, les femmes, nous réalisons deux journées de travail en un seul jour. La journée de travail hors de la maison et la journée de travail des soins, des cuidados. Bon, si on nous payait cette journée de travail qu'on ne nous paye pas, qui est celle des cuidados, la société devrait remettre en question sa structure. Et le capitalisme aussi. Revoir la structure économique en incluant les cuidados est indispensable. Nous, on voulait une grève générale contre la violence machiste, une grève de la consommation et des soins. Ce qui veut dire que nous, on mettait le foyer au centre de la réflexion sur l'économie. Nous avons appelé les femmes à faire une grève du travail, certes, mais à éviter la consommation et surtout les soins. Ne prépare pas le dîner, ne va pas chercher les enfants à l'école, ne les emmène pas à l'école si tu as quelqu'un d'autre qui peut le faire, ne va pas faire les courses, ne prends pas soin des personnes âgées.
Et en fait, là, ça s'est posé aussi beaucoup de questions, dans chacune dans son endroit, dans son milieu à retrouver des questions différentes. Mais par exemple, entre les journalistes, c'était « Ok, mais moi, si je fais la grève le 8 mars, ça veut dire que ça va être un homme qui va parler sur féminisme. Ça va ou ça va pas ? Et ça va si moi, je laisse une pièce préparée pour que ça soit émise le 8 mars ? Je veux signer quelque chose le 8 mars ou pas ? Ouais, ou est-ce que je dois donner des instructions à mon collègue homme pour qu'il sache qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que finalement, c'est la même chose. Si moi, je fais la grève, mais je laisse à mon mari écrit dans un post-it ce qu'il doit acheter et comment il doit faire à manger, ça, c'est la grève. Il y a beaucoup d'hommes qui nous demandaient comment est-ce que moi, je peux faire la grève? Et moi, c'était comme, moi, je m'en fous. Ça, c'est vraiment, je ne vais pas encore une fois te dire comment tu dois faire les choses. Je suis un peu fatiguée. Trouve ta façon de faire les choses et après, si tu veux, tu me communiques. Mais moi, je ne veux pas dire aux hommes qu'est-ce qu'ils doivent faire dans le jour de la grève des femmes. Je veux dire, non. Et ouais, donc quand les hommes nous demandaient comment ils pouvaient faire pour supporter la grève, on leur disait, écoutez, voyez, entre vous. Et après, si vous voulez, vous nous communiquez. Donc il y a par exemple beaucoup d'hommes qui ont fait des points de soins. Où ils prenaient soin des femmes, ils cuisinaient pour les femmes, ils prenaient soin des enfants, on pouvait les laisser là-bas, tout ça. Mais ce n'est pas nous qui avons organisé ces points de soins. C'est des hommes qui ont organisé ça. Et après, on a fait une carte et on a mis les points de soins. Et on a dit, voilà, si vous avez des besoins. Mais on n'est pas organisés.
Mais on s'est dit aussi, il faut sortir de notre espace de communication. Parce que nous, notre collègue, ils sont féministes déjà. Donc il faut sortir de ça. Il avait des copines qui disaient il faut y aller à les TV shows super mainstream de midi où toutes les grand-mères sont en train de regarder. Il faut y aller là et parler. Et on a fait ça. Au début, tu vois, parce que dans les mouvements autonomistes, on ne parlait pas avec certains médias, tu vois. On disait, ben, on ne va pas y aller à cette média parce qu'il fera chaud, je ne sais pas. On se disait, non, il faut couper ça, il faut y aller à tout le monde. Il faut y aller partout. Parce que même si cette personne-là, peut-être, ne vient pas aux manifestations pour de certaines choses, mais on veut que... On veut mettre la question des soins au centre des débats chez tout le monde. Mm-hmm. Donc, on choisit les différents profils pour y aller dans dans de certains endroits. Surtout, il avait des copines super intelligentes avec ça et qui parlaient super bien. Et je me rappelle d'une fille qui avait 19 ans. Avec une femme expérimentée de 50 ans. Ils sont allés tous les deux, au matinal. On a fait des ateliers pour parler aux médias. Et donc, il avait une stratégie de communication super grande. Oui, on a fait, par exemple, beaucoup de choses au quartier.
Sur ?
Aux différents quartiers. On se mettait là avec une petite poste et on parlait de la grève. Tu vois, quand tu parles avec une, quand on parle avec une femme âgée, une grand-mère, il dit non, est-ce que c'est les femmes qui sont toujours s'occuper des tâches ménagères. Il dit ah bah oui ma fille, bah ça c'est vrai, non? Et donc tu politises une chose qui est normale dans la vie, non? Que personne n'a pensé ou que personne n'a pas, d'ailleurs que tout, et beaucoup de féministes ont pensé avant, non? Mais et que pour cette femme là. Il dit, bah oui, non. Il dit, tu m'occupais de toutes les choses des maisons, mais tout le monde me disait que je ne travaillais pas. Même si j'ai travaillé beaucoup, mais j'ai travaillé chez moi, non. Donc ça, je pense que c'est une question qui a pu connecter beaucoup avec des différentes générations.
Et aussi, il y a une grève très intéressante, par exemple, dans la télé et dans les médias. Je me rappelle quand on a fait la première... conférence presse, ça a été en janvier 2018. Et quelques moyens de communication, on parle sur ça. Un peu, on se moquant de nous, comme « Ah oui, une grève de femmes, voilà, voilà. » Et je raconte toujours cette histoire. Je mets toujours, en fait, une partie d'un programme de radio très connu où on s'est un peu moqué de nous. Et après, je dis... un programme de télé, de la télévision publique, où il y avait une femme qui disait « Oui, mais ça n'a pas de sens. » Et une grève des femmes, et ça ne va pas arriver jamais. Et oui, on verra le 8 mars où on est. Et vous savez où? Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mars dans ces programmes? On ne le sait pas parce qu'on n'a pas eu de programme. Parce qu'ils ont annulé les programmes, en fait. Parce que toutes les femmes de la télévision publique ont fait la grève. Et parce que la plupart des femmes dans tous les médias ont fait la grève. Donc, ça a été vraiment un succès qui personne ne s'attendait, en fait.
Yo paro.
Digo no. Digo no.
Yo digo no.
Por la igualdad, por nosotras y sobre todo por las que vienen detrás.
Digo no al techo de cristal.
Moi, j'arrête.
Moi, j'arrête.
Je dis non.
Je dis non.
Je dis non.
Je dis non.
Pour l'égalité, pour nous et surtout pour celles qui viennent après nous.
Je dis non au plafond de verre.
Nous nous arrêtons pour avancer.
Je dis non au fait que les soins ne soient pas répartis équitablement.
Que les hommes et les femmes aient les mêmes possibilités d'avoir un congé maternité.
Je dis non au point de vue partial et au regard fermé.
Je veux plus de femmes titulaires.
Je dis non au harcèlement sexuel et dans les lieux de travail.
Pour en finir une fois pour toutes avec le plafond de verre et que les femmes puissent prétendre aussi au poste de direction.
Je ne veux pas que tu m'aides, je veux que tu partages avec moi.
Je dis non aux différences de salaire.
Le féminisme est aussi nécessaire pour améliorer le journalisme.
Je dis non aux cercles de pensée, aux espaces d'opinion avec une majorité d'hommes, pour celles qui peuvent,
pour celles qui ne peuvent pas, et pour nos enfants, dont nous espérons qu'ils n'auront pas à le faire.
Pour tant de choses, et pour toutes,
le 8 mars,
pour tant de choses,
les femmes,
et pour
nous nous arrêtons 24 heures.
Le 8 mars, nous, les femmes, nous arrêtons 24 heures.
Pour que nous n'ayons pas à nous souvenir que c'est nous qui faisons bouger l'autre moitié du monde.
Pour toi, maman, qui n'a pas eu cette possibilité.
Aujourd'hui, 8 mars,
aujourd'hui,
rien ne prend
8
fin.
Mars, rien ne prend fin, tout commence.
Pour tout cela, les femmes de la radio-télévision espagnole, nous nous arrêtons.
Aujourd'hui, 8 mars,
Rien ne prend fin, tout commence.
Hicimos un grupo que se llama Las Periodistas Paramos y conseguimos que incluso...
Nous avons fait un groupe, les journalistes, nous sommes en grève, et nous avons obtenu que même des femmes comme Ana Rosa Quintana, qui est la chef, la grande vedette des matinées, ultra conservatrice. Soudain, la veille, elle a annoncé, moi aussi, je rejoins la grève. Toutes les femmes d'Espagne, de toutes les rédactions, de toutes les télévisions, des radios, toutes, nous avons fait grève. Et quand les femmes des médias nous avons dit « Nous faisons grève », la société a compris qu'aucune femme n'allait travailler. Et des millions de femmes ont fait grève. C'était énorme.
Et surtout, ça a été fait sans hiérarchie. Donc moi, je menais la presse avec d'autres gens et on nous appelait toujours et ils voulaient toujours en fait, parler avec le responsable ou la responsable. Mais il n'y avait pas de responsable. Il n'y avait pas de porte-parole. À Madrid, on avait 20 porte-paroles qui parlaient. Moi, je parlais, notre amie parlait, on parlait toutes. Parce qu'on avait tous les droits de parler, parce que c'était une chose qu'on avait fait en commun. Donc pour moi, ça a été vraiment un processus super. Le gouvernement, qui était le gouvernement du Parti populaire, a dû faire un argumentaire contre notre grève pour savoir répondre. Quand on les demandait, on les posait des questions sur la grève. Donc pour nous, quand on a vu ça, c'était comme, c'est pas vrai. Ils ont fait un argumentaire contre notre grève. On est vraiment importante.
Et soudain, tout le monde s'est arrêté. Tout le monde, il faut dire, qui pouvait le faire. Parce qu'il y a des femmes qui ne pouvaient pas s'arrêter. Les soignantes ne pouvaient pas s'arrêter. Les mères qui n'ont personne pour garder leurs enfants ne peuvent pas faire grève. Les femmes qui travaillent encore au noir dans ce pays ne peuvent pas faire grève. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire grève. Mais il y a eu beaucoup d'autres femmes qui, pour la première fois, ont fait grève. Ça a été très émouvant.
Pour toi.
Pardon. Est-ce que c'est un recuerdo super bonito?
C'est que c'est un très beau souvenir parce que
verá toda esta rédaction.
De voir toute cette rédaction.
Sentada, escuchando cómo nos íbamos a organizar.
Assise à écouter comme nous allions nous organiser pour aller en grève.
Et que el periódico no solo
non seulement le journal n'a pas fait de problème, mais surtout que tous nos collègues disent
marchar.
Aller manifester. Ça m'émeut encore beaucoup. C'est qu'en plus, je suis très sensible sur les histoires de féminisme. Mais c'est que c'était vraiment très beau.
Et
voir la rue remplie d'autant de femmes, c'était très impressionnant. Il n'y a jamais eu de manifestation aussi massive dans Madrid. Il y a des photos aériennes, vous pouvez les chercher, sur lesquelles on voit tout le centre de Madrid, la place de Cibeles, là où il y a la mairie, et toutes les rues qui la croisent. Il n'y rentrait même plus une épingle. Ce n'était pas une de ces photos qu'on cadre pour faire comme s'il y avait une grande foule. Où que tu regardes, Madrid était remplie de femmes. Et ça a été terriblement impressionnant, vraiment. C'était très émouvant de voir cette image. C'était une population de femmes très hétérogènes, des femmes âgées, des très jeunes, des mères avec leurs filles, des grands-mères avec leurs petites filles, des femmes super connues, très célèbres ou très riches, des hommes, des jeunes. Des hommes plus vieux. Et ces derniers 5-6 ans, c'est clair que oui, Madrid se remplit. Barcelone se remplit. Des petites villes se remplissent. Et ce ne sont pas des petits groupes de femmes comme il y a 20 ans. C'est la société dans son ensemble. C'est ce qui a été en partie merveilleux parce que l'Espagne, ce 8 mars 2018 a montré qu'elle était différente des autres pays.
Tu vois, la grève féministe, c'est difficile à mesurer. Parce que ce n'est pas une grève ouvrière comme on a pensé les grèves avant. Non, on n'a pas arrêté l'industrie. Hein. C'est difficile à mesurer combien de personnes sont arrêtées à faire les tâches ménagères, je sais. Et donc, on disait, on ne s'importe pas des données, tu vois, des chiffres. On a gagné la grève quand tout le monde parlait de la grève.
Unirnos para plantar cara al patriarcado y decirle que sin nosotras el mundo se para, que nos queremos vivas, que la calle y la noche... Disfrutad esta mañana de lucha y alegría.
Et le combat pour l'égalité homme-femme a mobilisé aujourd'hui beaucoup, beaucoup de monde en Espagne. Mouvement sans précédent à l'appel des associations féministes et des syndicats. Plus de 5 millions de personnes ont participé à une grève générale des femmes. Toute l'économie aujourd'hui a été perturbée par ce mouvement.
La grève est un processus. Elle continue et sa fin reste ouverte. En moins de 3 ans, la grève est devenue un outil qui a conduit dans une direction nouvelle, à une échelle internationale, le mouvement des femmes et des corps dissidents. Qu'est-ce qui a rendu possible ces rencontres entre des femmes de l'économie populaire et des femmes au foyer, entre des étudiantes et des travailleuses du sexe, entre des employées des hôpitaux publics et des ouvrières, entre des chômeuses et des auto-entrepreneuses? Pour répondre à cette question, nous devons examiner de plus près l'époque qui a précédé la grève elle-même, et entrer dans la cuisine de la grève, les assemblées. La dynamique des assemblées et la production d'alliances nous ont permis de quitter le ghetto du discours sur le genre qui limite notre parole à une position de victime. C'est-à-dire franchir le mur qui étouffe les voix des femmes, qui ne sont écoutées que si elles racontent un épisode horrible, sans le replacer au sein d'un discours politique qui déconstruit les causes de la violence et convoque des forces pour s'y opposer. C'était aussi sortir du solipsisme de l'organisation féministe pour rencontrer des camarades issus des syndicats, des mouvements sociaux, des quartiers, des groupes étudiants, des collectifs de migrantes, des artistes et d'autres.
Véronica Gago, la puissance féministe.
Un an après la grève féministe de 2018, les 5 membres de la Manada sont enfin condamnés en appel pour viol. Et 3 ans plus tard, une nouvelle loi est adoptée par le Parlement espagnol. Le solo si est si. Seul un oui est un oui. La toute jeune ministre de l'égalité, Irene Montero, est une fière représentante d'une nouvelle génération de féministes.
C'est un jour très important pour le mouvement féministe et pour les femmes dans notre pays. Un jour de grande victoire après de nombreuses années de lutte. En adoptant enfin définitivement la loi de garantie intégrale de la liberté sexuelle, la loi du solo si et si. Enfin, notre pays reconnaît légalement que le consentement est ce qui doit être au centre de toutes nos relations sexuelles. Le cri féministe du solo si et si, du hermana yo si te creo, sœur moi je te crois, devient une loi dans notre pays. Et le pays féministe que nous sommes fait aussi son chemin dans l'architecture de l'État. Donc nous sommes très fiers et je veux remercier tout le mouvement féministe et en particulier toutes les victimes de violences sexuelles qui ont livré une bataille très difficile lors de ces dernières années pour qu'aujourd'hui ce gouvernement de coalition puisse faire ce pas en avant et que la majorité féministe du Congrès et du Sénat puisse enfin dire que seul oui est un oui dans nos lois aussi.
Y ahora vamos a poner un ejemplo práctico de qué puede desencadenar esta nueva ley. Imaginaos que yo, cualquier día de la semana...
La promulgación de la loi provoque l'indignación d'une partie de la population. Pour eux, c'en est fini de la présomption d'innocence des hommes. Les réseaux sociaux sont saturés de vidéos dans lesquelles des potentiels innocents sont montrés comme faussement accusés d'être des agresseurs. Les auteurs de ces posts estiment qu'il est impossible et dangereux de légiférer sur la zone grise de la séduction. En rédigeant cette loi, la magistrate Victoria Rossell, déléguée pour les violences de genre au ministère de l'Égalité, a précisément souhaité changer les mentalités, car cette ambiguïté de la sexualité profite aux agresseurs.
Es muy antigua, en España.
Elle est très ancienne, en Espagne. La tradition selon laquelle la femme devait résister et dire non au sexe.
Incluso con su marido, con su novio,
même avec son mari,
con su marido para
avec
ser
son fiancé,
una mujer
avec son mari,
honesta.
Pour être une femme honnête.
Eso viene de una tradición muy larga y de aquella cultura social.
Cela vient d'une très longue tradition. Et dans les procès pour viol, dans cette culture sociale et juridique, ce sont toujours les femmes qu'on a jugées. À quel point elle a dit non? Dans quelle mesure a-t-elle résisté? Qu'a-t-elle fait? Elle. L'égalité des sexes, c'est le passage du non, c'est non, du « je suis une femme et je dois t'empêcher depuis toute petite jusqu'à l'âge adulte, je dois arrêter les hommes » au seul oui est un oui. C'est seulement le consentement qui permet que ce soit une relation sexuelle et non une agression sexuelle.
Creo que es revolucionaria y que solo con el paso del tiempo se comprenderá en su profundidad.
Je crois que cette loi est révolutionnaire et ce n'est qu'avec le temps qu'on en comprendra la profondeur.
Por primera vez. Todo el asunto de Jenny Hermoso.
Déjà, toute l'affaire de Jenny Hermoso, toute l'affaire de l'équipe féminine de football, le CA Cabo, est le fruit de la loi sur le consentement. Tout à coup, une société entière a compris qu'un homme ne peut pas embrasser une femme sur la bouche si la femme ne le veut pas. Oh, c'est rien, ce n'est qu'un baiser. Oui, mais elle ne le veut pas. C'est ça le consentement. Et ça change tout.
Une loi pour réinventer les rapports entre les femmes et les hommes. Une mobilisation jamais vue qui donne envie aux plus blasés, aux plus timorés de sortir dans la rue. Car soudain, tout devient possible. Et la vie se transforme en une succession de moments magiques qui n'ont pas fini de stupéfier les Espagnoles elles-mêmes.
Ah, ça, c'est une photo de...
On voit une femme qui porte l'affiche d'une...
Oui, c'est important de voir les photos parce qu'on peut voir la composition intergénérationnelle, non, complètement. Ça, c'est une jeune femme qui porte une affiche qui dit, avec des fleurs, et qui dit « révolution » avec le symbole féministe.
Sauf que le R est en parenthèse, donc ça peut aussi se lire « révolution, évolution
». Aquí, ça c'est une jolie photo parce que dans les quartiers, dans certains quartiers, comme il y avait la grève de soins, lycée de soins, non? Alors, beaucoup d'hommes ont montré sa disposition pour attendre les petites filles, les petits enfants pendant la journée des greffes.
Oui, là, on voit une photo comme dans une crèche ou dans une école maternelle avec plein d'hommes qui s'occupent d'enfants, ce qui est quand même assez exceptionnel.
Et ça, c'est très amusant. Il dit « bébé ». C'est une femme qui porte ce bébé et très petite,
sur le dos,
et dit « bébé lactante, bébé qui a besoin de lait ». Elle dit « servicios mínimos ». Service, c'est-à-dire que la femme est en grève et qu'elle va donner pour ce petit enfant le service mínimos.
Si nosotras paramos, se para el mundo.
Si nosotras, se para el mundo.
Si nosotras paramos, se para el mundo.
Si nosotras paramos, se para el mundo.
Ça reste en chaque nuit parce que c'est une expérience tellement extraordinaire, tellement inclusive, tellement pas seulement comme des victimes, mais aussi avec de l'allégresse, avec de la joyeuse, non, de dire est-ce que nous pouvons faire ça, nous avons de la force. Et ça, tout les petites choses de la grand-mère qui ne veut pas et aller chercher les petits enfants et les journalistes, tout ça pousse dans le même chemin. Alors c'est une sensation de force incroyable.
El feminismo se ha convertido en algo imparable. La huelga.
Le féminisme est devenu quelque chose d'incontournable.
Millones de mujeres paramos en España.
La grève générale de 2018. Des millions de femmes ont arrêté de travailler en Espagne. Ça fait le tour du monde.
Ahora, el se acabó y el fútbol
maintenant,
femenino español
le se acabó et le football féminin espagnol ça fait le tour du monde aussi.
Extraordinario en una sociedad.
C'est incroyable dans une société, parce que ça bouscule les bases de la société. Ça interpelle l'Église, ça interpelle les partis politiques, ça interpelle l'économie, la maternité, les services de santé, l'éducation. Ça change tout.
Pour vous, c'est une énorme victoire, quelque part. Ça doit être un bonheur, quelque part.
Absolument. Absolument. Absolument.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Merci a Isabel Cadenas, Rusta Montero, Julia Riesco, Cristina Falaras, Isabel Valdés, Victoria Rossell. Merci a Diane Cambon, Mercedes Justa Rodriguez, Karine Berges. Lecture et traduction, Aline Afanoukoé, Eve Gerbaudy, Louise Muller, Marie Matteron, Magali Montoya, Florent Houlier. Prise de son, Nicolas Mathias, Bastien Varigo, Pierrick Charles. Mixage, Sébastien Royer. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Ingrid Anne Lecointe. Stagiaire, Eve Gerbaudy. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Féminisme, l'avant-garde espagnole. Une série documentaire d'Ilana Navarro réalisée par Cécile Lafont. Épisode 1, Yo te creo, je te crois. À suivre, Féminisme, l'avant-garde espagnole, épisode 2, Sortir du franquisme.
Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra. Tiempo.